que l'aventure des explorateurs s'est terminée dans la catastrophe, dans l'anéantissement. Vayaktum ad achorma, ils les ont brisés jusqu'à l'anéantissement. Voilà. On a commencé hier le chapitre Vav que je reprends. Et d'abord, Hachem, El Moshe, les morts, Hachem a parlé à Moshe en disant: d'abord, El Bene Israël, va Martha Alehem, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras: Kitavu El Eretz Moshpotechem, Asher Aninoten Lachem. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras: quand vous viendrez dans la terre de vos résidences que je vous donne. Rashi relève que ici c'est une consolation. C'est une consolation que tout de suite Dieu leur dit: quand vous arriverez dans la terre de vos installations. C'est-à-dire que quand bien même y a-t-il une catastrophe, mais Hachem leur dit: vous arriverez dans cette terre et vous vous y installerez. Donc quand vous arriverez là-bas, verset Gimel. Vasitem Michel Hachem, Ola O Zevar, les Falen Neder, O Bindava, O Bemoadechem, la Sot Rear Niroar, Lachem Minabakar, O Minatson. Vikriv Amakriv, Korbano, Lachem Mincha, Solet, Isaron, Balul, Birviit, Ain, Shamem. Alors, qui c'est qui s'y collait là hier? C'est Dan, hein? Alors, est-ce que tu peux reprendre le verset Guimel?
Vasitem ishe ladonai ola o zevar le fale neder o bindava o bemuadechem la sot reyach nichocha ladonai min abakar o min hatson.
Alors, traduisons. Donc, quand vous arrivez dans la terre, vasitem.
Alors, Vasitem Ishe, alors, qui t'avoue El Eret, bon ça, non, Vasitem Ishe, alors, et vous ferez donc des Ishe, c'est Ish, un feu, donc c'est un sacrifice de feu.
Oui.
Pour Hachem, voilà une sorte de, d'élévation, c'est la catégorie du sacrifice.
Holocauste.
Un holocauste, c'est ça, exactement. O Zevar. Alors, Zevar, c'est un sacrifice?
Oui, alors on a traduit hier un égorgement.
Un égorgement, oui.
Alors, mais j'explique, je reprends succinctement ce qu'on a vu. Ça veut dire que l'animal, dans le désert, ils n'avaient pas le droit de manger de viande de boucherie. La seule viande de boucherie qu'ils avaient le droit de manger, c'est un korban shlamim. Ça veut dire, tu avais envie de te faire des grillades avec des copains. Ouais, grillade, un plan grillade. Grillade avec canette fraîche, tu vois, une croix fraîche.
Ouais.
Oh non, ça va pas ensemble, ça va pas du tout ensemble.
Oh là là.
Un rosé bien frais, un rouge léger, fruité.
Fruité, voilà. Oh, d'accord, on te suit, Philippe, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, comment tu faisais? Tu prenais un animal, tu l'amenais au Mishkan, faisais la shrita au Mishkan de cet animal comme korban shlamim. Korban shlamim, c'est un korban dont la plus grande partie est mangée par les propriétaires dans un état de pureté. Dans un état de pureté. Alors, quand c'est au temple, c'est à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors, shlamim, ça veut dire qu'il y a une perfection. Il y a une partie qui est brûlée sur l'autel, une partie est donnée au kohanim, et le gros est mangé par les propriétaires. Donc, quelle est la particularité de cet animal? C'est qu'on lui fait la shrita. La base, c'est ce que j'ai expliqué hier longuement.
Oui.
La base de la shrita est le korban shlamim au temple. Donc, zevar, c'est égorgé, mais l'égorgement spécifique qui se fait la shrita. Hein? Voilà.
C'est ça.
Alors, donc quand vous ferez soit un korban entièrement brûlé, soit un korban sanctifié par l'abattage, hein, les falen neder ou bindava. Alors ça, c'est un peu compliqué, un petit peu compliqué. Les falen neder. Alors, le mot, la racine du mot, c'est palais. Palais, qu'est-ce que ça veut dire, palais? Là, on est branché sur notre conversation là.
Allez.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. J'arrive.
Ouais, il n'y a pas de problème. Alors, Dan, on passe la main là?
Ben non, je continue.
D'accord. Bon. Alors, les phalénédères. Qu'est-ce que ça veut dire, les phalénédères? Phalénédères. Palais. On voit le mot, par exemple, dans la prière, Osefoné. Qu'est-ce que ça veut dire?
Palais, c'est un miracle.
Allô?
Oui. Kenya, vendez, achetez. Allô, vendez, achetez.
C'est autre chose maintenant, je t'explique.
Le fait bien. Ah. On s'y croirait.
Comment?
Le sketch. Notre vie est un sketch. Alors,
c'est tout à fait autre chose que ça. Un livreur pour récupérer un colis quelque part. Bon. Tu vois? Sinon, je le perds. Tu vois, le caractère d'urgence, c'est comme un ordre.
Ok, alors on y va. Alors, si vous offrez un ishé, un feu pour Dieu, Ola, Oseva, les falais neder. Les falais. Alors, monsieur Parizet, notre sympathique candidat, nous dit que Pélé, c'est un miracle. D'accord? Mais on voit. Par exemple, dans la prière, on dit « Osé Pélé », il fait des choses extraordinaires. Pélé, ça veut dire extraordinaire. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les falais neder. Neder, c'est quoi?
Un vœu.
Qui est-ce qui a attendri l'entrecôte là, à côté là?
Je suis neder, prononcez un vœu.
C'est pas une partie de Eid Pael aussi, Eid Pael.
Comment?
Ça se retrouve pas dans les Eid Pael aussi?
Eid Pael avec un Aïn.
Ah.
Et Aïn.
Nananer.
Alors, on y va. Alors, Pélé, ça veut dire un miracle, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Pélé qui sort de l'ordinaire. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Attention. Alors, les falais neder, c'est quoi neder? Un vœu. Neder, c'est un vœu. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui voue au temple d'offrir un corban. Par exemple, c'est quelqu'un, il est très content, je ne sais pas moi.
Il a acheté, il a vendu.
Ouais, c'est action Sanofi a augmenté et ça a augmenté. Il est tellement content, il dit j'offre au temple un corban. C'est un éder. Un éder. Alors qu'est-ce que ça veut dire les phaléneder? Les phaléneder, ça veut dire exprimer.
Prononcer.
Exprimer un vœu. Exprimer un vœu, ça s'appelle les phaléneder. Quoi? Parce que les commentateurs expliquent que la parole est un prodige.
Oh là là.
C'est le sens le plus simple possible. Exprimer, qui veut dire un prodige, c'est le même mot. Alors, ce notion de pélé, le mot pélé, par exemple, on le voit dans la bénédiction de Asher Yatzar. Regardez, dans le Sidour, hein, on va se faire une petite dose de Sidour. Rofé Kolbassar, là j'ai mon Sidour là. Rofé, c'est pareil que ça soit Rashkenaz ou Sepharad, ça c'est international. Rofé Kolbassar dans Asher Yatzar. Rofé Kolbassar ou Mafli la Asot. Hein? Ça veut dire quoi? Tu es béni toi Dieu. Rofé Kolbassar, qui guérit toute chair et qui prodigieusement agit. Mafli. Prodigieusement, prodige de faire. C'est-à-dire du verbe je prodige, tu prodiges, ouais, nous prodigeons. Tu prodiges.
Dijon, c'est ce que c'est.
Prodige de faire. Alors les commentateurs disent en quoi y a-t-il un prodige? En quoi y a-t-il un prodige dans le fait d'être en bonne santé? Parce que aller aux toilettes, quelque part, fait qu'on peut être en bonne santé. Et là, il y a un prodige. C'est quoi, excusez-moi, c'est quoi le marteau? Il y a un marteau là.
Pardon, Rav, il y a des travaux au-dessus de mon toit. Je vais couper le micro. Bon.
Non, ça va, c'est pas bien grave. Oui. Ok, alors, qui prodige en agissant. Parce que les commentateurs expliquent, en particulier Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch explique que le fait qu'il y a la neshama, la vie, est liée avec la matérialité, c'est un prodige. Que l'âme soit liée avec le corps, et que ça fonctionne, c'est un prodige. C'est pélé. De la même manière, la parole qui est l'expression de l'intellect humain se passe par la corporalité, c'est la parole, c'est un prodige. Voilà. Et parler, parfois, veut dire exprimer, pas seulement parler, exprimer. Ouais. Parler, ça, on l'a déjà vu. Il y a les morts, les dabers, mais ici c'est exprimer. Exprimer, ça s'appelle les phalées, prodiger, du verbe je prodige. D'accord?
Bien. Et c'est d'où les problèmes de communication entre des hommes. Des problèmes de parole.
C'est sûr que la parole.
La plupart du temps, beaucoup de malentendus, d'embrouilles, de, d'incompréhension provient de la parole, quand on exprime mal les choses.
Absolument.
C'est un prodige, la parole, c'est vrai.
Ouais, c'est un prodige.
Parce voilà. que ça clarifie les situations.
Mais vous voyez ici, ce qui est impressionnant, c'est qu'au niveau, ici, si vous voulez, ce n'est pas du midrash, c'est vraiment le mot lui-même. Le mot lui-même, dans la simplicité du mot, exprimé, ça s'appelle prodige. C'est le même mot.
C'est incroyable.
C'est fort, hein ?
Oui, incroyable.
C'est puissant, hein, c'est puissant.
Vous nous avez dit que pile, c'était éléphant. Ça a la même, c'est la même racine.
Absolument.
Pile.
Pile. Pile, c'est l'éléphant. Pourquoi ? Parce que lorsque Adam a vu l'éléphant, il a dit prodigieux. Prodigieux. Pile.
L'éléphant, ça trompe énormément.
Voilà. Et là, j'ai une note là personnelle, comme quoi aussi la parole ou le manque de parole aussi est catastrophique.
On dit que la parole, c'est la neshama, non ? Et une personne muette n'a pas de... Moi, je donne l'exemple de mon père qui a eu un problème. Il est devenu aphasie. Il a une aphasie maintenant. C'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Parce que, tu vois, c'est un grand Talmid Chacham, mais il s'est un peu coupé de tout ça, tu vois. Il a du mal à parler.
Une fois, tu étais venu avec lui à Cadet.
Oui, c'est vrai.
Tu étais venu une fois avec lui.
C'est vrai, c'est entièrement juste. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est difficile.
Il est où, à Paris ? Il est à Paris ?
Ouais.
Ah, d'accord. Ouais.
Il est très bien, bon, mais il a une petite attaque cérébrale. Mais pendant l'intervention, hop, il y a quelque chose qui a, voilà, au niveau de la parole. Il n'a pas de handicap physique, mais la parole, quoi, l'aphasie. Mais c'est problématique. Hein.
C'est sûr.
Et d'ailleurs, la question, c'est les muets. Est-ce que les muets... Est-ce que les muets expriment leur neshama, ont cette possibilité de connecter leur neshama à la réalité ? C'est une question, ça ?
C'est une question. Une question qui est traitée dans le Talmud.
Ah bon ? Ah oui.
Ok. Bon, en tout cas, regardez ici, on voit de manière éloquente que l'analyse des mots, rien que l'analyse des mots, nous donne des pistes infinies. Hein. Ok. Donc, vous ferez un feu pour l'Éternel, holocauste ou égorgement, les phalé neder pour exprimer un neder au bindava. Qu'est-ce que ça veut dire bindava? Monsieur Cohen, là, qui est au tableau.
Oui, alors Bindava. Alors, c'est la racine Nedava. Qu'est-ce que ça veut dire, Nedava ?
Je ne souffle pas. Hein. C'est compris qu'il ne fallait pas souffler. Il ne fallait pas faire le faillot.
De voir la racine, je ne veux pas regarder le sens, la traduction. Nedev, Nedava.
Nedava. Mais tu sais, des fois, tu as des gens au Sefer Torah, ils font une Nedava. T'as jamais entendu ça?
Ah oui, un don.
Ah ben voilà.
Ah ben voilà.
Tu le savais.
Ah oui, un don, ouais. Nedava, ouais. C'est vrai.
Tu vois, tu le savais.
C'est vrai, c'est vrai.
Nedava. Donc, deuxième grand principe de ce matin, c'est que vous savez traduire. Ouais. Vous venez à un cours d'hébreu biblique, mais ouais. Vous savez...
N'oubliez pas de faire un don à la yeshiva.
Nedava.
Nedava. Nedava, c'est un don. C'est un don.
C'est ça.
Hein? Par exemple, un donateur, c'est un advan. Nadvan.
Nadvan. Ah, ça, c'est intéressant, ça.
Nadvan. En hébreu, Nadvan, c'est un donateur.
Mais on dit aussi une matana aussi.
Oui, c'est vrai. Alors, très très bien. Quelle est la différence entre matana et nedava? Alors, nodev, c'est-à-dire, ce n'est pas un cadeau, on ne fait pas de cadeau à Dieu, mais on fait quelque chose de volontariste, on n'est pas obligé. Ah oui, par exemple, un bénévole en hébreu moderne, c'est un mitnadev, quelqu'un qui s'offre. Nodev, c'est que ça vient de lui.
Bénévole.
Nodev.
C'est marrant.
Hein. C'est pas un cadeau, c'est une offrande. Voilà. Ah, voilà. Regardez. Différence entre Matana et Nedava. Matana en français. C'est un don. Nedava, une offrande. Bon, c'est vrai, comme ça a l'air d'être des synonymes. Hein. Ça a l'air grave, des synonymes. Mais c'est pas la même chose. La matana, ça veut dire c'est quelque chose, je te donne. Par exemple, voilà, tu veux m'acheter ce stylo. Bon, allez. Je te le vends pas, je te le donne. Donc c'est gratuit. Maintenant, une nedava, c'est une offrande du cœur. C'est quelque chose qui vient volontaire. C'est le contraire d'obligation. C'est le contraire d'une obligation. C'est, me semble-t-il, c'est en français, offrande. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme offre un hola aux Zévar pour exprimer un vœu ou une nedava. Alors, juridiquement, ça veut dire la chose suivante. Disons, je suis content, j'ai acheté des actions Zoom au mois de janvier. Bon, comme ça, on m'a dit, tiens, investis un peu dans les technologies modernes, machin, bon. J'ai investi dans Zoom. Et toc! Oh là là!
Le pactole.
J'ai dit gamme Zoom le Tova. Alors.
Ah oui. C'est vrai que si tu avais vu l'action Zoom, elle a explosé littéralement. Elle a fait x5 en 3 mois.
Ben voilà, c'est ça. Alors maintenant, je suis content. Je vais offrir au temple quelque chose. Il y a deux manières d'offrir. Neder, ça veut dire je vais offrir un bélier. Neder, c'est abstrait. Nedava, c'est ce bélier, je l'offre. Un bélier devant moi, ce bélier qui m'appartient, je l'offre. Quelle est la différence juridique entre un neder et nedava? La différence, c'est qu'un neder, disons, j'offre un bélier. Ensuite, je vais concrétiser mon offre, mon offrande, mon éder. Je prélève un bélier, je l'amène au temple et mon bélier, il a une crise cardiaque. Comme j'ai pris sur moi d'amener un bélier, je n'ai pas dit ce bélier, alors je dois en amener un autre à la place. Par contre, si je fais Nedava, c'est-à-dire j'offre ce bélier, je l'amène au temple, il a une crise cardiaque, je ne dois pas le remplacer par un autre parce que c'était lié à ce bélier. Donc, c'est ça la différence juridique entre Neder et Nedava. Voilà.
Donc, un Neder, en fait…
Juste…
Oui.
Les fallait Neder. Pardon. Les fallait Neder. Alors, au Nedava, c'est-à-dire que Nedava, c'est au même niveau que Neder, c'est ça? D'un point de vue. Non, pas légal, pas d'un point de vue légal, mais d'un point de vue du texte. C'est-à-dire que les falais, ça se rapporte aussi à Nedava.
Oui, ça se rapporte. Oui, oui, ça se rapporte au Neder et à la Nedava.
Alors, pourquoi il y a un bête devant la Nedava?
Oui. Alors, je me pose la même question.
Mais ça veut dire qu'un Neder...
Oui. Alors, Élie... a récidivé, il m'a mis KO là. Là, très très bien, très très bien. Et voilà. Ça veut dire ça veut dire comme ça. Un petit clapping parce que c'est très très bon. Je vais expliquer la remarque d'Élie. Clapping. Je reprends. Vous ferez. Donc, quand vous arriverez dans la terre de vos installations, vous ferez un hola ou un zeva pour exprimer un neder. Donc, moi, je me suis trompé. J'ai dit que les falé neder allaient à neder et nedava. Or, non, pas du tout. Les falé neder pour concrétiser le neder, puisque comme je vous ai dit, neder, c'est une abstraction. C'est je pense pas d'offrir.
Est-ce que c'est une promesse, un éder, non?
Oui, c'est une promesse.
Voilà, donc c'est pas... Voilà.
Mais les falais, c'est pour concrétiser ce vœu. Ou bien j'offre cet animal en nedava, bé nedava. Les falais, donc les falais neder n'est pas en facteur avec neder et nedava, puisque Élie nous a démontré qu'il y a un bête avec Nedava. Donc, ça veut dire, les falé Neder, c'est une proposition. Deuxième proposition, au Benedava. Parce que les falé Neder ici, ça veut dire pour concrétiser son vœu.
C'est clair et net, c'est extra.
Concrétiser, c'est pélé. Arriver à concrétiser son vœu, c'est extraordinaire. Donc ici, encore, je reviens de ce que je vous ai dit par la remarque d'Élie. Les Falénédères ne veut pas dire ici exprimé par la parole, mais exprimé par l'acte. Qui exprimé par l'acte est aussi un pélé. Parce que des fois, on a des velléités, mais arriver à la concrétiser, c'est miraculeux. Pour reprendre l'expression de Philippe. Arriver à concrétiser. Quelqu'un, il a un projet. Arriver à concrétiser son projet, c'est miraculeux. Les gens, ils ont des projets, ils n'arrivent pas à les concrétiser. Mais arriver à concrétiser un projet, c'est fabuleux. Fabuleux, c'est pélé. Alors, très, très bien. Alors, voilà, les falé neder pour concrétiser le neder ou bien en offrande. O bemo adechem.
O bemo adechem. Alors, Moed, c'est un temps.
Oui.
C'est un temps. D'accord. Moadim, c'est une période.
Moadim, c'est ça.
Oui. Alors, Moadim, c'est vos fêtes, les fêtes.
Hein? C'est ça.
Donc, lorsque vous offrirez Ola aux Evar pour un Eder, une Edava, ou bien lorsque vous viendrez au temple pour les fêtes. Parce qu'il y a une mitzvah d'aller au temple lorsqu'il y a les Moadim. Moadim les Simcha. Alors, Moed, la traduction précise de Moed. Moed, ça veut dire période. Fête. Hein? Ou bien en hébreu moderne, Moadon, ça veut dire quoi?
Un club,
exact, clapinge, un club, un petit clapinge. Tac, voilà, un club, Moadon, c'est un club, c'est marrant quand même, club. C'est-à-dire, c'est un endroit où on se rencontre. Un va'ad, c'est une réunion. Rav Shimshon Rafaelirch explique. C'est un moment de rencontre entre les enfants d'Israël et Dieu. On retrouve Hachem. Salut, comment tu vas? Chag Sameach. Voilà. C'est ça la fête. Et d'ailleurs, la plus grande des fêtes, c'est quoi la plus grande des fêtes?
Shabbat.
C'est Shabbat. Voilà. Qui se retrouve toutes les semaines. Et alors c'est quoi? On se retrouve avec Hachem. Salut, Shabbat Shalom, comment tu vas? Donc c'est ça, le Moed, c'est on se retrouve ensemble. Voilà. Va'ad, donc c'est une réunion. Moadon, ça donnait en hébreu moderne un club. C'est un endroit où on se retrouve ensemble.
Et Va'ad, ça a donné le syndic aussi en hébreu moderne. Le syndic de copropriété.
C'est marrant, hein, c'est drôle. Hein.
Va'ad Habayit.
Va'ad Habayit, ouais. Mais c'est... En vérité, la renaissance de l'hébreu est quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Alors, c'est vrai, quelque part, c'est une banalisation. Mais on voit quand même, vous voyez, que quelqu'un qui est bon en hébreu biblique, il va bien se débrouiller en hébreu. Bon, maintenant, il y a des choses un peu après. Par exemple, moi, je n'arrive pas à comprendre les journaux. Les journaux en ivrite, je n'arrive pas. Mais parler, quand on connaît bien l'hébreu biblique, c'est facile. C'est facile. Donc, c'est marrant. Hein, le syndic, ça se dit Va'ad. C'est excellent. OK. Donc, c'est le même mot que les fêtes. Voilà. Bien. Alors, donc, quand tu offriras, etc., tu offriras donc un holocauste ou bien un shlamim, bemo'adechem, dans vos fêtes, la sot reach nichoar lachem. Cher monsieur, il bosse là, monsieur Cohen, là, ce matin. Allez.
Ouais.
Ah là 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 là.
Alors, pour faire Réar, une odeur.
Oui, Réar.
Ça, c'est dans la prière, dans les Kétorettes. Les Yar, Aïché, la Donaï.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Traduisons Réar, odeur, Nihoar.
Nihoar, c'est agréable pour Hachem.
Voilà. Alors, Réar, Nihoar. Rashi explique ici, c'est très important. Que on offre un korban. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'acheter Dieu. C'est-à-dire, c'est le mec, c'est le Richard. Il arrive à la Sina. Ouais, la Sina, elle a besoin d'un coup de peinture. Il dit bon, allez, je prends mon chéquier. Dites-moi combien de zéros il faut que je fasse. Allez, voilà. Oh là là. Il est balèze celui-là. Il est balèze. Ouais. OK. Après, on cherche un président de la communauté. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous me dites combien? Je vous fais un chèque. C'est bon. Ah. Donc, les hommes, on peut peut-être les acheter. Mais Dieu. Est-ce que le contentement que Dieu peut avoir de nous dépend du nombre de sacrifices qu'on lui offre? C'est une question qu'on peut se poser. Alors ici, le verset nous répond à ça, que le but, c'est que il y a un réar niroir, qu'il y a quelque chose qui sente bon de ce que tu fais. L'odeur est une abstraction, que cette abstraction soit agréable à Dieu, que ce qui sort de là fasse plaisir. Voilà. Qu'il y ait une bonne odeur de ce que tu fais. Voilà. Entre parenthèses, moi je cherche des techniciens. Pourquoi on n'a pas numérisé les odeurs? Par exemple, je vais dans la campagne, ça sent super bon. Et je prends, je numérise l'odeur et je l'envoie par mail à Philippe Parizet. Voilà, j'étais dans la campagne, ça sentait super bon et je t'ai envoyé par mail l'odeur. Ça existe, ça?
Non. Je ne crois pas. Je ne pense pas.
Ce serait une bonne idée, hein?
Non.
Gad, qu'est-ce que tu en penses?
L'essence.
Super idée, ouais. Il dit c'est une géniale idée à développer.
Est-ce que l'essence est numérisable?
Voilà, voilà.
Pourquoi ça n'existe pas? Peut-être ça existe, je ne sais pas, moi.
Regardez, ça existe, Rav. Regardez, je vous envoie une bonne odeur, là. De lavande.
Est-ce que les sens sont numérisables?
Comment?
Est-ce que les sens sont numérisables? Est-ce que la vue, c'est numérisable? Le toucher, c'est numérisable? Non. Ce que tu vois...
Le toucher... Bah
avec les réalités augmentées, on numérise...
Je touche quelque chose, ce n'est pas pour autant que tu vas percevoir ce que je touche.
Non, mais aujourd'hui, avec les
machines, le toucher,
avec les machines 3D, on peut t'envoyer un toucher.
Ouais. Dans l'absolu, c'est possible. Dans l'absolu, c'est possible. Il suffit on voit déjà dans des magasins ou dans des centres commerciaux, des diffuseurs d'ambiance, c'est-à-dire des odeurs dans des centres commerciaux. Ça peut passer par de la clim, on appuie sur une fonction, sur une touche, et hop.
On met une odeur de pain.
Oui, mais ce n'est pas virtuel.
Ça, c'est autre chose.
Je crois que ça commence à exister.
Il existe à l'usage des amateurs de vin, par exemple, des coffrets où il y a des petits flacons qui contiennent des liquides ou des substances ou des choses solides qui dégagent une odeur, qui sont les arômes du vin. Alors, ça va être la fraise, ça va être la cerise, ça va être le bois, le cèdre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est que coffret, d'ailleurs, assez cher. À peu près 100 euros, un coffret total. Mais ça, effectivement, on peut sentir un petit flacon. Ah, j'ai découvert que cet arôme correspondant le vin, voilà, c'est ça.
Oh, mais ce n'est pas numérique.
Non,
on ne peut pas l'envoyer.
Question précise. Est-ce qu'on peut numériser l'odeur? Tout ça pour dire, je vous laisse.
On peut.
Je vous laisse. Quoi? On peut.
Ça commence à exister. Ouais. Ouais, je viens de regarder là très rapidement. Il y a une entreprise japonaise qui a commencé à essayer de faire ça. Bon, à créer un appareil muni de senseurs pour analyser les odeurs, les numériser et pour pouvoir après.
On va les doubler. Ouais, la start-up de l'Eshiva des étudiants, on fait une start-up et on va doubler les Japonais.
Ouais. La start-up des étudiants.
Non, mais on peut numériser en fait la composition des odeurs, pas l'odeur.
Ouais.
Bon. Ils disent numériser un parfum pour l'envoyer en
formule chimique.
Ah, voilà, oui. Alors, vas-y.
Là, c'était un mot, je ne sais pas si ça existe, mais ils disent numériser un parfum pour l'envoyer en quelques clics, voilà qui va bouleverser notre communication. Les éclairs Sun ont déniché trois moyens pour faire voyager les odeurs.
Voilà.
Les sons ne sont plus seuls à véhiculer messages et émotions.
Voilà. Alors, regardez.
Si c'est le prochain test. Zoom, moi j'achète. Hein. Si ça fait comme Zoom, j'achète. Hein. Si ça fait comme Zoom, j'achète. Hein.
C'est une technologie, vous voyez, film japonais, Senti, qui permet d'envoyer par SMS des messages parfumés.
Senti.
Non. Ah non, non, c'est pas ça. Un message parfumé, ça c'est sûr que oui.
Non, mais par SMS.
L'empreinte parfumée de quelqu'un, ou d'une odeur, ou d'une fleur, tu vois. C'est dans la campagne, et ça sent une odeur, et j'aimerais la photographier et l'envoyer.
Oui, bon. C'est ce qu'ils disent, par SMS.
D'accord. Ok, tout ça pour dire... Je suis dans le sujet. Je reste dans le sujet.
On investit.
En vérité, malgré, on a l'impression que j'ai fait n'importe quoi. C'est une impression qui a l'air pas complètement fausse d'ailleurs, mais malgré tout, bon, qui est un petit peu dans le sujet. Parce que qu'est-ce que on offre un corban à Dieu? Qu'est-ce qu'il a de ça? Qu'est-ce qu'on veut? Alors on dit Narat Troar, il dit. Réar ni roar, une bonne odeur. une bonne odeur. Ça veut dire que il y a quelque chose de subtil, indéfinissable, impalpable, qui fait quelque part un agrément, une satisfaction à Dieu, que ça lui plaise. Voilà. Et ça, c'est sûrement quelque chose que nous, dans la vie, on doit s'interroger. Est-ce que ce qu'on fait, ça fait plaisir? C'est impalpable, c'est quelque chose d'impalpable. D'ailleurs, l'autel, sur l'autel, ce sacrifice qui brûle, il y a la fumée qui sort, est une parabole quelque part de quelque chose qui, à travers nos actes, se distille et s'évapore pour quelque chose d'impalpable. Et c'est cet impalpable, le but du Corban. Voilà. Qui est exprimé par l'odeur. D'où la réflexion numérisation des odeurs. On continue.
Oui, tu avais dit que l'holocauste, c'est une fumée qui monte complètement.
Voilà, c'est ça. Hola, ça monte complètement. Alors, la sodrea niroar l'Hachem, pour faire une bonne odeur à Dieu, mina bakar o minatson, cher monsieur.
Alors, bakar, c'est du bétail, du grand bétail. Et minatson, c'est du petit bétail, du menu bétail.
Voilà, du menu bétail. Son, c'est. Alors, bakar, c'est de la vache. Donc, c'est du gros bétail. Son, c'est du petit bétail. Voilà. Alors, on va continuer. Tiens, Antoine, s'il vous plaît.
Juste, Raph.
Oui, oui.
Raph, vous avez dit que Rah Nihoar, c'est pour exprimer cette notion que ça soit impalpable.
Oui.
La notion d'odeur. Alors, pourquoi introduire par la asot, faire, qui en dirait un verbe vraiment matériel, quoi. Quelque chose de. La asot, c'est. Peut-être je me trompe, hein, mais la asot, c'est pas quelque chose de concret dans le matériel. Ou ça peut être aussi abstrait comme une odeur.
Ben, finalement, tu provoques cet agrément. Tu le provoques. C'est toi, ton le maassé. C'est oui. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, c'est toi qui as fait quelque chose quand même. Mais tu fais quelque chose d'impalpable. Mais tu l'as fait quand même. Oui, on va essayer de continuer. Verset d'Alet.
Beikriv amakriv korbano l'Hashem mincha solet isaron balul birviit ayin shamen. Alors beikriv amakriv. On retrouve kerev la proximité au sein d'eux. Non.
Oui, ah, très bien. Karev, hein. On a dit c'est au sein. Ça veut dire à l'intérieur d'eux. Karov, c'est proche. Alors, ici, c'est la notion de korban. Hein. Le korban,
le korban,
en français, on traduit par sacrifice. Mais comme tu viens de dire, Antoine, la racine du mot, c'est karov. Alors, bien évidemment, tous les grands maîtres ont travaillé la notion, qu'est-ce que c'est un korban? C'est quoi c'est quoi toute cette histoire du Mishkan? Et surtout nous, qui sommes dans une culture... Ça n'existe pas. Ça nous paraît un peu barbare. Ça nous paraît un petit peu dépassé, barbare. On ne voit pas trop le but de ça. Alors, tous les commentateurs disent Corban, le but, c'est se rapprocher de Dieu. On va essayer de prendre ça, si vous voulez. Et ça passe par des offrandes. Ça passe par des offrandes où on est mitkarev, on se rapproche de Dieu. C'est par des actions, c'est par des actions qu'on se rapproche, par des actions. Aussi, un korban, quelque chose de très très important, c'est que ça coûte de l'argent. C'est-à-dire, nous, êtres humains qui sommes physiques, le matériel est toujours en manque. Toujours, quelqu'un, il est en manque. Il nous manque toujours quelque chose. Je ne sais pas, moi, comme dit le verset, Oef Kesef, Loisba Kesef, celui qui aime l'argent ne se rassasira jamais d'argent. Donc on est toujours dans un manque. Maintenant, offrir un korban, ça coûte de l'argent. Par exemple, tu vas dans une sina, tu aimes bien la sina, tu profites de l'électricité, du chauffage, du rabbin qui fait son boulot, du chamash qui fait son boulot.
Du café gratos.
Ouais, du café, etc. Maintenant, disons, un moment, tu comprends qu'il faut peut-être banquer quelque chose, quand même.
Participer, quoi.
Mais ça fait quand même mal. Oui. Ça fait bien qu'en vérité.
Gratuit, c'est mieux que pas cher.
En vérité, ça s'impose. Il n'y a même pas, il y aurait même pas besoin, il n'y a même pas besoin d'en parler. Ça s'impose.
Ça sur s'impose. Zoom, c'est du low cost.
C'est du low cost. Oh, excellent.
Voilà. Sur Zoom, on ne paye pas l'odeur.
Je ne regrette pas d'être venu à ce cours.
On ne paye pas le café, on ne paye pas.
Du low cost. Oh, là, c'est la barre.
Il n'y a pas de ménage. Il n'y a pas de ménage. Hein. Vous avez raison. Mais tout ça pour dire. Tout ça
pour pareil dire. Pour les cours de la yeshiva.
Là, personne, Laurence, personne n'osait le dire. Hein. Personne. Non, mais tout ça pour. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que banquer, même banquer 50 euros, 100 euros, 500 euros, 5000 euros, peu importe, même 10 euros, c'est toujours quelque chose. Parce que tu payes. Payer, c'est. D'ailleurs, il y a. Quand un homme épouse une femme, il a des mitzvot à l'égard de son épouse. Des mitzvot, en l'occurrence, de nourrir sa femme, de vêtir sa femme. L'imbécile va dire, c'est normal. D'accord. Mais la Torah t'enjoint de le faire. Ça veut dire que payer à sa femme quelque chose, ça rapproche. C'est comme ça. C'est humain. Nous, on est fait de chair et de sang. C'est quelqu'un, on vivra d'amour et d'eau fraîche. Moi, je dis qu'un couple juif, c'est amour, eau fraîche et beaucoup d'argent. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire le fait de payer, c'est sûr que Chas v'Shalom, il y a des gens, tu les achètes avec de l'argent. Ça, c'est une attitude qui peut exister, une attitude servile. Mais le fait de payer, ça rapproche.
Il y a un truc que je n'ai jamais rien compris, pas compris, c'est que l'homme qui paye pour sa femme, ça le rapproche, mais la femme qui paye pour son mari, ça ne la rapproche pas.
Oh. Je vois ça. Lui, ça le rapproche quand même.
Il faudrait creuser cette question.
Oui. Non, c'est des choses profondes.
C'est très profond, mais c'est incroyable.
L'argent, c'est très profond.
Il n'a pas d'odeur.
J'adore.
Mais on dirait que c'est un carburant que pour l'homme, vis-à-vis de sa femme. Mais pour sa femme, vis-à-vis de son mari, ça ne marche pas. Ce n'est pas un carburant.
Ça ne marche pas. Pourtant, la femme de Rabbi Akiva, c'était elle qui s'occupait de ça, non c'est, mais ça ne la rapprochait pas.
Non. Elle était sur la paille, mais au sens le plus simple possible. Elle vivait dans une grange parce qu'elle n'avait rien du tout. Et lui, il était.
Mais elle avait vendu. Elle avait vendu. Ah oui, elle s'occupait d'elle. D'accord. Ouais. Elle s'occupait d'elle.
Si je ne m'abuse. Ah oui, parce que toi, tu dis, elle a vendu sa couronne en or, etc.
Oui, tout à fait.
C'est juste.
Je ne savais pas si c'était.
Tu as raison. Oui, tu as raison, c'est bien, c'est très bien. Très bien. Ok, en tout cas, et là, le Corban, tout ça pour essayer de mettre en relief le fait que j'amène au temple et que j'offre quelque chose. Par exemple, un holocauste qui va être complètement brûlé, eh bien, par cela, je me rapproche de Dieu. C'est le fait que je paye quelque chose, que j'offre quelque chose, je me rapproche de Dieu.
Et c'est quoi la différence entre Corban et Rorban alors ? Ça ne s'écrit pas pareil ?
Ah, Rorban, c'est une destruction.
Non.
Ça ne s'écrit pas pareil.
Corban, c'est comme ça. Kouf.
Avec un kouf, oui.
Resh, bet, nun. Rorban, ouais. C'est resh. Ret, oui. Ret, bet, nun.
Oui. Mais on traduit les deux par sacrifice.
Non.
Non ?
Non, non. Rorban, c'est la destruction.
Ah oui. Ah, d'accord.
Non, non.
Donc, pour faire un korban, on fait un rorban.
Non.
Non.
On ne détruit pas.
Non. Si. Il y a une partie qui est détruite.
Non.
Je ne sais pas.
J'ai confondu les deux tout le temps, alors je viens de découvrir la différence. Et du coup,
non. C'est pas le même mot.
Oui, ça, j'ai vu.
D'accord ? Bien. Maintenant, néanmoins, dans tout Corban, il y a quelque chose dont on se sépare. Dans tout Corban, il y a quelque chose dont on se sépare. Il y a tout qui va être brûlé. Dans tout Corban, il y a quelque chose qui va être brûlé ou donné au Kohanim. Dans tous. On se sépare de quelque chose. Donc ici, on verrait que pour se rapprocher, il faut se séparer de quelque chose. Il faut faire un effort de quelque chose. C'est par l'effort qu'on se rapproche.
Donc là, c'est destruction et l'autre, c'est...
Bon, maintenant, la question de Dan, c'est une question très profonde qui est-ce que... Mais je pense aussi que la femme, ça ne passe pas par l'argent, mais la femme qui fait à manger pour son mari, qui se préoccupe que son linge soit propre, que sa maison soit jolie, qu'elle-même, elle soit jolie, etc., elle donne, et ça la rapproche.
Ah oui, ça, c'est vrai, mais pas l'argent. Enfin,
non, pas l'argent, peut-être pas l'argent.
Nous, moi, mais, je vois mais, des situations
mais,
de moi
mais, où tellement
les femmes ont banqué lourd sur certains hommes, ça ne les a pas rapprochés.
D'accord, mais
c'est pas une question
la femme, elle donne même sa personne.
Ah oui, oui.
Ça rapproche.
Ah oui, oui, là, dans sa personne, mais pas dans l'argent.
Donc, si tu veux, ça passe pas par l'argent, mais ça passe par tout le reste.
Comment ?
Ça passe pas par l'argent, mais ça passe par tout le reste.
Non, mais ça passe pas par l'argent, ça passe par un investissement personnel, pas par l'argent.
Voilà. L'investissement
regarde Anne Sinclair avec Strauss-Kahn, par exemple.
Mais si tu veux, l'investissement personnel est peut-être tellement colossal, que bon, pas l'argent, mais tout le reste, oui. Qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle s'occupe de... Donc là, ça, c'est oui, ça rapproche.
C'est même beaucoup plus précieux parce qu'elle donne de son temps et le temps, il est limité, alors que l'argent, il est quelque part illimité.
Oui.
En fait, c'est plus précieux ce qu'elle donne. Elle donne du temps.
Elle donne. Qu'est-ce qu'elle ne donne pas,
hein? C'est quoi les règles pour pouvoir apporter une offrande? Est-ce que c'est que les hommes? Est-ce qu'il faut un âge spécifique?
Oh là là, ça c'est...
C'est un sujet vaste.
Énorme. Ok, alors regardez, on a vu beaucoup de choses. Donc ici, Ve'ikriv, Amakriv, Korbano. Vous voyez ici, l'auteur n'a pas peur de faire des répétitions, vous pouvez remarquer.
Ouais.
Moi, j'aurais écrit ça, on m'aurait dit variez votre vocabulaire. Dans la marge, on m'aurait écrit variez votre vocabulaire, monsieur. Alors, Ve'ikriv, il offrira celui qui offre un korban, l'Hachem. Bon, on verra
Bezrat Hachem. Son korban, non ?
Son korban. Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hachem, on continue lundi. C'est bon ? Hein ? C'est bon ? Je sais qu'il y a un peu des perturbations. Une seconde, lundi, qu'est-ce que je dis lundi ?
Non, lundi, c'est pas possible.
Non, lundi, c'est pas possible. Lundi, moi, je vais à la Brit Mila chez Damien à Angers.
Bah, Mazal Tov.
Mazal Tov.
Voilà. Moi, j'aurais du mal. Je reprends le travail en présentiel. Donc,
voilà. C'est ça.
Donc, il y a... C'est Roche Podache lundi.
Oui. Oui. Il y a beaucoup de bouleversements lundi. Hein. On fera le point. En tout cas, lundi. Lundi matin, je vais Bezrat Hachem à la Brit Mila chez Damien. Et mardi. Fera... Voilà. Et après, donc toi, par exemple, Antoine, mardi, tu ne pourras plus être là, c'est ça?
Ce sera oui, beaucoup plus ponctuel.
Ok. Bon.
Est-ce qu'on ne peut pas le faire dimanche?
Il n'y a pas cours.
Alors, dimanche, je fais un autre cours.
Une autre heure, un autre moment peut-être, non? Le faillote, là.
Comme a dit Thierry, le temps est limité. Ok, allez, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci.